Chapitre 5. 6 décembre 2017. J'entends les cloches de l'église sonner au loin. Quand elles se manifestent en plein après-midi, c'est qu'on enterre quelqu'un. Un ancien, sans doute. Si c'était un jeune, avec le journal et ma permanence, je serais au courant. Ici, il n'y a plus que des vieux. Sur 2 écoles, l'école Pasteur et l'école Danton, il n'en reste qu'une. Et pour combien de temps? Quand une usine perd ses ouvriers, ce sont aussi leurs enfants qu'on perd. Ici, depuis 20 ans, trop de plans sociaux et de départs en retraite anticipés. L'usine Magellan, qui fabrique des pièces détachées pour automobiles, est passée de 3000 salariés en 1980 à 340 en 2017. Le coup de grâce a été porté en 2003, quand la société de transport d'Amam a été vendue, puis, quelques années après, délocalisée. Il pleut sur mon tilleul. Je travaille à la correction d'un manuscrit, en attendant d'en savoir plus sur la voiture qui a été retrouvée au fond du lac. Elle a été emmenée à Autun. Les flics ne m'ont pas laissé approcher. J'ai fait quelques photos de la carcasse sortie de l'eau. Ce matin, cette affaire représente un minuscule encart dans le journal. Mais si on découvre un ou plusieurs corps à l'intérieur, elle sera en première page. J'ai le sentiment que les gendarmes marchent sur des œufs avec les journalistes. D'après un informateur, il semblerait qu'il y ait des ossements dans la voiture. Je ne peux m'empêcher de penser à Clotilde Marais. Tout à l'heure, en faisant du tri, je l'ai reconnue sur ma photo de classe de CM2. En mars 1987, elle n'avait que 11 ans. Je ne me souvenais pas que Clotilde était dans notre classe. Ça a été un choc de la revoir enfant. Longtemps, son portrait a été placardé chez les commerçants. Mais comme le soir de sa disparition, un témoin l'a formellement identifiée à la gare, tout le monde a pensé qu'elle était partie, sans laisser d'adresse. Sur ce cliché, on voit aussi le père Pie dans sa blouse grise, ainsi que les 3 B côte à côte. Beaulieu, Beau, Bobin. Moi, dans la 2e rangée, la 4e en partant de la gauche, diaphane, transparente, inexistante. L'année Pie. Nina, Étienne et Adrien se retrouvaient devant l'école Pasteur 10 minutes avant que la cloche sonne. Ils n'avaient pas d'autres camarades qu'eux. Ils se collaient presque, comme les chiots d'une même portée. Pourtant, ils ne se ressemblaient en rien, ni physiquement, ni dans les attitudes. 11 ans, c'est l'âge où la plupart des filles restent avec les filles et les garçons avec les garçons. Nina était souvent fatiguée parce qu'elle se couchait tard. On racontait qu'elle aidait son grand-père à classer le courrier pour la distribution du lendemain, par rue et par quartier. Ce qui était faux. Le tri se faisait le matin à la poste. Elle dessinait sans doute jusque tard dans la nuit. Elle avait toujours les doigts gris à cause des bâtons de fusain. Elle avait beau les frotter avec une brosse et du savon, les mines de plomb coloraient ses ongles. J'adorais les poches qu'elle avait sous les yeux. Je les lui enviais. Cela la vieillissait, lui donnait un air grave. J'aurais voulu lui voler ses marques de fatigue. J'aurais voulu tout lui voler. Son petit nez, son allure, son port de tête, son sourire. Enfant, Nina ressemblait à Audrey Hepburn. Plus tard aussi. Mais en triste. Bien qu'Audrey ait toujours trimballé une petite lueur de mélancolie au fond de l'œil. Chez Nina, c'était plus noir. Comme si elle était revenue de tout alors qu'elle n'était qu'une gamine. Personne ne savait qui était son père. Mais on supposait qu'il était originaire d'Afrique du Nord ou du Sud de l'Italie, parce que sa mère était, d'après les racontars, une rousse aux yeux verts, et que Nina avait les yeux si foncés qu'on ne distinguait pas ses pupilles. Les 3 B allaient à pied à l'école. Le skate, Étienne et Adrien le gardaient pour le soir, le mercredi après-midi et les vacances. Nina et son grand-père vivaient dans une cité ouvrière, une de ces maisons en briques toutes identiques collées les unes aux autres sur une dizaine de rues. Avec un jardin potager à l'arrière. Chaque jardin nourrissait une famille entière et quelques voisins si la saison était bonne. Adrien et sa mère Joséphine résidaient dans un F3 au 4e et dernier étage d'un immeuble des années 60. Étienne, ses parents et sa petite sœur Louise logeaient dans une belle maison entourée d'arbres centenaires. L'aîné, Paul-Émile, était parti faire ses études à Dijon. Nina était élevée par un vieux. Étienne était le fils d'un vieux. Adrien, celui d'un père absent et d'une mère 68arde qui fumait des roulés et écoutait Seiten Sojo de Murrayhead en nettoyant les vitres de la salle à manger. À 200 mètres près, ils étaient tout droit à égale distance de l'école. Ils étaient liés par un même idéal, partir quand ils seraient grands. Quitter ce bled pour aller vivre dans une ville pleine de feux rouges, de bruits de fureur, d'escaliers mécaniques et de vitrines, et des lumières partout, même en pleine nuit. Avec du monde sur les trottoirs, des inconnus, des étrangers dont on ne peut jaser. Ils passaient tout leur temps libre ensemble, récréation et cantine comprises. Ils riaient des mêmes choses. Prendre l'annuaire téléphonique, tourner les pages au hasard, composer un numéro et faire des réservations en travestissant leur voix. Regarder Magnum et Fame porter volets clos en gobant des bonbons. Jouer au Mastermind et à la bataille navale. Lire ensemble un Tintin ou l'Almanach de l'étrange, allongé sur le lit de Nina. Fini, disaient Adrien et Étienne à l'unisson. Alors et seulement quand les deux garçons avaient parlé, Nina tournait la page. Ils adoraient se faire peur, se raconter des histoires, poser des boules puantes dans les allées du supermarché, s'enregistrer pendant des heures sur la radiocassette, jouer aux animateurs radio et se réécouter en pouffant bêtement. Étienne était le leader, Nina le cœur, et Adrien suivait sans jamais broncher. Leur rituel était aussi rythmé par les crises d'asthme de Nina. Tous trois étaient suspendus à ses bronches capricieuses. Certaines crises pouvaient durer des heures entières malgré la ventoline. Durant les plus aiguës, Nina préférait rester seule avec son souffle déglingué. Adrien et Étienne rentraient chez eux, chacun de leur côté. Adrien pour lire ou repenser à ce qu'il s'était dit. Étienne pour faire du skate, ou regarder la fin de récré à deux, à la télé, avec Louise, sa petite sœur. C'est Nina qui était leur trait d'union. Sans elle, Adrien et Étienne ne se voyaient pas. Ils étaient trois ou rien. Les deux garçons aimaient Nina parce qu'elle ne jugeait jamais personne, alors qu'à la Comelle, tout le monde s'évaluait. On héritait des racontars. On se les passait de génération en génération. Nina trimballait la réputation de sa mère. Elle n'était que la petite bâtarde d'une moins que rien. Adrien, de par sa timidité, n'intéressait personne à part Nina, qui le trouvait intelligent et mystérieux. Sa mère, Joséphine Simoni, était la nouvelle recrue de la garderie municipale, une baba cool dont les jupes longues traînaient sur les trottoirs. Pas de père. On regardait ce couple mère-fils comme des hippies. Quant à Étienne, il était dédaigné par de nombreux élèves car fils de bourge. À la Comelle, on ne se mélangeait pas. Les serviettes restaient avec les serviettes et les torchons avec les torchons. On respectait les ouvriers, moins les contremaîtres. Les fils de cadre étaient mal perçus, l'aisance et la richesse presque suspectes. Les trois allaient toujours au cinéma ensemble, toujours assis au premier rang. Là, Adrien n'était pas relégué derrière comme dans leur salle de classe, mais à côté de Nina. Elle au milieu, lui sur sa droite, Étienne sur sa gauche. Le jour où ils virent Manon des Sources, Nina leur saisit la main à chacun au moment où Hugolin secoue le ruban de Manon à même la peau et les garda serrés dans les siennes longtemps après qu'Hugolin se fût pendu. Manon des Sources resta le film préféré d'Adrien et Étienne, quoi qu'ils en disent. Quand on leur demandait « Quel est ton film préféré ?» Il répondait « Le retour du Jedi », mais il mentait.